take a load off.
I'm not too sure with the speed of the maintenance.
You know, I enjoy killing these Martians. Fire your laser.
Oh, no!
Hey, salut les pinaises, bienvenue ce soir à The Pitball Podcast épisode je ne sais plus combien de la saison 4, ça je le sais. Ah, et tu vois, c'était pas là, mais on a bien évidemment Nico qui est là et Sylvain, comment ça va les gars?
Ça va bien.
Salut, ça roule.
Donc le menu ce soir, c'est quoi Nico?
Après les chroniques, on parlera de Barry O's Barbecue Challenge, le nouveau flipper d'American Pinball. On parlera des accessoires Stern de Foo Fighters et on parlera de la prochaine sortie d'un flipper Pinball Brothers. Voilà.
Nico, je te laisse commencer.
Et c'est parti. Et nous sommes au podcast numéro 11 d'ailleurs.
11, d'accord, très bien.
Numéro 11. Ce mois-ci, en mars 2024, donc, Stern Pinball a initié un nouveau type de challenge via le Stern Insider Connected. Pour mémoire, le Stern Insider Connected, c'est le kit qui permet de connecter un flipper Stern récent à Internet et bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme des badges, des achievements, des mises à jour de code automatique, etc. Donc je reprends, en mars 2024, Stern a donc lancé un événement en ligne nommé March Machine Mania. Le principe est le suivant, toutes les semaines de mars, les scores enregistrés via le Insider Connected dans les lieux publics sont remontés et compilés par état des États-Unis. Chaque meilleur score quotidien par titre fait gagner des points à l'état en question dans lequel la partie a été jouée. Donc concrètement, ça fait un contest entre états. L'état qui a le plus de points gagne le titre de champion de la semaine et tous les participants de cet état récupèrent un badge lié au résultat de son état. Avant que vous vous posiez la question, les non-américains, nous, hein, les Français notamment, on est regroupés dans une même team appelée International America First, les gars. Nous, on est un grand tout. Voilà.
D'accord, on se voit. C'est pas chier, quoi. Il y a nous
c'est
et
ça.
Le reste du monde. D'accord,
c'est ça.
Okay, très bien.
Ouais. Bon, d'un autre côté, ils n'ont pas tout à fait tort parce que quand on regarde les résultats, on n'est jamais premier. Hein, donc voilà.
Ah, c'est parce que je ne me suis pas encore mis avec la vitre relevée. Comme tu veux nous parler de ça, je suppose.
Non, pas du tout.
D'accord.
Enfin, okay, je sais pas de quoi de la vitre relevée dont tu parles, mais.
Du score de 60 milliards.
Si,
été,
tout à fait, tout à fait. Ah, mais ben c'est voilà. Pas une histoire de vitre relevée.
Ça, on n'en sait rien, on n'était pas là.
Attends, tu vois, j'ai fait mes recherches.
T'as niqué ta chronique, là.
Mais t'as vu, mais il fait ça, voilà. Quand c'est pas idiot, c'est lui. Donc. La compétition et la communication autour de la compétition filent la métaphore autour du basketball, ce qui est pas pour nous déplaire, ça donne une petite couleur supplémentaire, c'est assez sympa pour illustrer ce type d'événement. Honnêtement, la mécanique est originale et on apprécie l'effort de mise en scène de Stern, digne des logiques de saison qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo comme Fortnite par exemple. Mais pas de bol, Stern a eu un petit souci, et là effectivement tu m'as niqué mon truc. Le 6 mars, le fabricant a diffusé le message suivant, que je vous ai traduit parce que je suis sympa et je l'ai même pas fait, je le fais même pas lire à Sylvain. Arbitrage vidéo, nous avons dû siffler un temps mort dans March Machine Mania. Des concurrents astucieux ont découvert un bug dans Jaws, transformant le classement en un slam dunk injuste. Nos arbitres repéreront les fautes sournoises, mais ne vous inquiétez pas, notre équipe est à la recherche de la vraie solution, plus vite que vous ne pourrez dire « That's just unfair », un super jeu de mots, « That's just unfair », et là c'est « That's just unfair ».
Ok.
Concrètement, Stern a supprimé quelques scores anormalement élevés du calcul des résultats. Sauf que la raison, c'était un défaut de conception dans les règles du flipper Jaws et pas une fraude de la part des joueurs. Pas de bol pour Stern, l'un des soi-disant contrevenants, c'est Eric Stone, c'est le 20e joueur mondial. Et il était justement en live lorsqu'il a atteint son score phénoménal de, attention, 4172 milliards. Je savais même pas que ça pouvait s'afficher, ça. Et il a pas triché.
Moi,
je l'ai fait
sur le Venom, mais...
Bien sûr. Et il a pas triché. Il se trouve qu'une des règles de fin de scénario était mal codée et comme peu de personnes atteignent ce niveau, bah Stern est sûrement passé au travers. Dès le 7 mars, Stern avait patché le problème, donc c'était réglé. Mais du coup, Stern s'est pris une tempête de commentaires négatifs pour avoir qualifié les personnes ayant exploité ce défaut de concurrent astucieux, sous-entendu de tricheur, et pour avoir retiré les scores en question, évidemment. qui a raison dans l'histoire? Alors, si on essaye de faire la part des choses, on comprend Stern, c'est sûr qu'on comprend Stern et les problèmes de Stern. Il ne voulait pas que son événement soit ruiné par le problème. Ça aurait pu détourner des joueurs lambda du concours. Et les joueurs lambda, ça forme le gros des clients du fabricant. C'est pas le top 100 qui achète toutes les machines, hein. Top 100 du classement IFPA. On comprend aussi que les joueurs qui ont atteint ces scores faramineux ne soient pas ravis de voir leur score effacé. Après tout, ils n'ont rien fait de mal, ils ont juste joué au jeu et ils en connaissent les règles. On se rappelle que dans une compétition aussi, un tournoi, si un flipper a une mécanique non fonctionnelle ou si sa pente n'est pas bien ajustée, on ne change rien en cours de compétition afin de garantir les mêmes chances à tous les joueurs. Ce que n'a pas fait Stern du coup. On se dit aussi que Stern aurait peut-être pu attendre un petit peu plus que le code de Joe soit « rodé » entre guillemets avant de l'inclure dans cet événement. On comprend bien pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils auraient dû attendre un mois ou deux de plus avant d'inclure le Joe ou de lancer ce type d'événement. Et on se dit pour finir qu'avec le côté collaboratif par état que Stern a voulu mettre en place, bah ici ils se sont un peu tiré une balle dans le pied parce qu'ils ont créé une espèce de fédération, de communauté, une solidarité avec les joueurs concernés qui n'auraient pas été peut-être la même, ou pas aussi forte, s'il n'y avait pas eu cette mécanique-là. Honnêtement, les enjeux n'étaient pas énormes, et donc le tort fait aux participants, il reste très limité. Tout le monde s'en remettra, mais j'ai trouvé la controverse intéressante, parce que jusqu'à présent, ce type de situation arrivait, mais elle n'était vue que par les compétiteurs, en gros. Maintenant, c'est un spectacle mondial, avec des conséquences mondiales. La preuve, c'est qu'on en parle sur un podcast français.
Mais qu'est-ce qu'il est fort, mon Nico. Bravo.
Alors, bravo
parce
Nico.
Que déjà j'avais vu la publication en fait de Stern et j'avais pas tout pigé et en même temps je vous avoue que j'avais pas creusé non plus le sujet. Bravo parce que ta conclusion est extrêmement pertinente et ça peut aussi faire écho avec ce qu'on organise là au niveau de notre tournoi IFPA. C'est-à-dire que voilà, comme on publie de plus en plus au niveau de l'IFPA, et ben on propose en fait d'autres règles, une autre façon de concevoir le truc. Donc ça permet aux gens de se faire une autre idée et c'est exactement, si je ne m'abuse, ton propos. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant que le spectacle est devenu en fait réellement public et mondialement public, et ben ça a d'autres conséquences qu'un entre-soi de niche, concrètement. On n'est pas à l'abri que ça se reproduise. Au niveau de, on est d'accord que là, on est au balbutiement de ce que va être le flipper connecté.
Ah bah, complètement. Alors, et la mondialisation de ce sport-là, c'est que le début. En revanche...
Tu viens de le dire. Le sport, on y arrive quand même. On est d'accord que c'est un sport. On va pas refaire le débat.
Oui, on avait dit, on avait fait une rubrique, enfin un podcast sur est-ce que c'est un e-sport ou un sport, etc. etc. Mais concrètement, en fait, ces problèmes-là, ils arrivent aujourd'hui encore dans le foot, alors que le foot a 100 ans de transmission publique derrière lui, quoi. Donc ça arrivera toujours. C'est juste que ça nous fait encore un peu bizarre dans le monde du flipper, quoi.
Mais c'est vrai qu'on est toujours dans une époque un peu archaïque, je le dis souvent, que ce soit au niveau fabricant, distribution, communication, on est encore au balbutiement réellement de ce que pourrait être plus tard notre e-sport de flipper. Et moi, d'ailleurs, on milite pour ça, vous le savez maintenant. Hein, depuis le début avec Pinball Mag, on milite pour la démocratisation et que ça devienne aussi un e-sport. Donc voilà. Mais c'est quelque chose de très intéressant, justement, parce que pour l'instant... vu que Jazzy Jack Pinball a fait machine arrière sur le Scorebit, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était, Nico, le Scorebit?
Oui, Scorebit, c'est un peu un concurrent dans le monde des flippers connectés, si ce n'est que c'est une version compatible, enfin c'est un module compatible toute machine et toute époque, donc vous pouvez le mettre sur pas mal de choses, alors pas sur les Stern récents de mémoire. Et ça fait à peu près la même chose. C'était très orienté partage de scores pour des compétitions, par exemple. Il n'y a pas toute la logique d'achievement à ma connaissance. Mais voilà, c'était le Stern Insider Connected avant le Stern Insider Connected, avec tout le mérite de faire quelque chose qui est cross-platform ou cross-fabricant de flipper. Donc vous pouvez toujours le mettre sur votre Theater of Magic, votre American Pinball, votre je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, et donc ça faisait ça. Après c'est un peu cher, hein. C'était de mémoire, c'était de l'ordre de $500 la machine à mettre dans le flipper, donc c'était plus cher qu'un kit Stern Insider, mais ça reste l'alternative si vous avez pas un flipper Stern récent, c'est-à-dire que Le Stern Insider, lui, est compatible qu'avec les Spike 2. Donc, on va dire depuis 2000... aidez-moi, je ne sais plus bien. Je dirais 2017-2018.
Oui, grosso merdo. Voilà, on ne nous en voudra pas si on n'a pas la date exacte. Le but n'est pas d'être une
encyclopédie.
Voilà, mais c'est de vous donner l'information. Et n'hésitez pas à aller la rechercher par vous-même ou la confirmer, la valider ou l'invalider, ce n'est pas grave. Je voulais rebondir sur un truc, juste sur, effectivement, vous le savez, on défend depuis le début, le Stern Insider, pour nous, c'est un très bon truc. Une fois de plus, on n'a pas la vérité absolue, tout ce qu'on vous donne, ce sont des avis. Vous avez bien évidemment le droit de ne pas partager notre avis, mais en tout cas de le respecter. Et au niveau du Stern Insider, on pense vraiment que c'est un outil qui va être vraiment... moteur pour l'avenir du flipper en ligne, la connectivité. Et nous, on voit vraiment les choses d'un bon œil sur ce truc-là et pas toujours comme des choses négatives. Alors, on sait que parfois, il y a des gens qui sont, excusez-moi du terme peut-être, qui n'est pas adapté, mais un peu passéiste. Et c'est très bien hein, que des gens kiffent le 80, 90, Bally Williams, tout ça, c'est génial. Mais effectivement, nous, on est un peu plus tourné vers l'avenir. Non pas qu'on n'aimons pas cette période-là, non mais à part Sylvain. Mais on est un peu plus tourné vers l'avenir au niveau de la connectivité, je parle. Alors, ça, c'est quand même drôle parce que Sylvain est très années 80-90 sur ses flippers. Il vient de passer à Stern. Il vient de changer totalement d'avis sur sa machine qui vient de se choper, qui est le Stranger Things. Chut, voilà. Il faut garder la façade.
Ça brise le mythe.
Ouais, ça brise le mythe. Est-ce que tu as installé ton Stern Insider ou toujours pas?
Mais tu sais que même pas, il est dans un carton là-haut, en fait.
Il n'est pas possible.
Non, je te jure.
Mec.
Il n'est pas possible.
On va juste finir sur cette petite parenthèse Scorbid et
Stern
Insider.
Ah, oui.
Et puis, on va juste finir là-dessus pour dire qu'effectivement, il risque d'y avoir dans l'avenir plusieurs problèmes de soit de bugs, soit de tricheries, ça, parce qu'il est difficile de pouvoir réellement... contrôler ça, parce que même si effectivement vous le savez que pour avoir les pastilles bleues il faut être un compte Stern validé, la malhonnêteté existe aussi bien chez les joueurs que chez les distributeurs, que chez plein de gens, donc on pourrait très bien penser qu'à un moment donné quelqu'un retire la vitre et s'amuse à appuyer sur les connecteurs et puis falsifier son score. C'est les limites de ce système là en dehors d'un système compétition validé et contrôlé par des arbitres ou des gens sur place. Voilà.
Non, il y a ouais, mais là, c'est plus, à comparer avec un... c'est plus à comparer avec un glitch d'un jeu vidéo, finalement.
Ah oui, ce dont je parlais,
sur le cas précédent. Ouais. Tout à fait.
Là, c'est pas même pas un bug exploit, parce qu'un bug, c'est un truc qui est mal codé. Là, enfin, plus exactement, c'est ça nuit pas à l'expérience de jeu, comme des fois les exploitations de bugs, où en passant dans un sprite, ils arrivent, je sais pas quoi, à aller se balader sur 10 niveaux plus tard. Quoi. Là, c'est juste que ça, il y a une mécanique qui a été mal pensée et qu'ils ont corrigé dès le lendemain. Quoi.
Alors, excusez-moi, c'est que ma femme a décidé d'un seul coup de faire bouillir de l'eau juste à côté de moi. Donc, je ne sais pas si vous le captez dans le micro, j'en suis désolé.
Oui, oui.
Du coup, je vais lâcher le micro et je vais donner le micro à Sylvain pour sa chronique. Vas-y, c'est quand tu veux.
Alors, bon, ce soir, les amis, je l'ai décidé, je fais la paix avec Lazarus. Non, parce que je passe mon temps à lui jeter des vilaines crottes de nez dans toutes mes chroniques, en lui rappelant que c'est un putain d'adolescent qui se trimballe des casquettes débiles et des t-shirts de nerd asocial pour faire jeune, alors que de toute façon, c'est un putain de vieil aigri qui passe son temps à chier sur le monde et à prendre la parole alors qu'on lui a pas donné. Hein, pardon, j'ai dit que je faisais la paix. Bon, on va essayer de trouver un terrain d'entente. T'es OK, mon petit Lazounet d'amour?
Hein, bah, bien sûr. Bon.
Alors, les casquettes, c'est mort. L'éteuil dans les flippers, putain, c'est mort aussi. Le type, il fait n'importe quoi avec les jouets de son fils. Les flippers d'ancienne génération, il y comprend rien, donc c'est mort encore. Putain, mais il me reste quoi, en fait? Ah, si. Il y a un truc qu'on a en commun, lui et moi. La musique. Non, ah, parce oui, qu'il a de bon goût, hein, l'animal, et de belles références. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il avait comparé la bascule du plateau du Mandalorian Premium à Joey Jordison de Slipknot, qui en live basculait la mini scène sur laquelle était posée sa batterie pour jouer à la verticale. C'est et pas de la rêve de bonhomme, ça. Et bien sûr, t'avais Nico à l'époque avec ses gouttes fragiles qui avait rétorqué « Y'a que toi qui as la ref, oh lol !» Eh ben non, espèce d'inculte, moi j'avais la ref. Et je faisais pas encore partie de l'équipe Pinball Mag que j'avais déjà un semblant d'amour pour Lazarus juste non. Avec cet exemple. Alors que toi, Nico, je suis sûr que t'écoutes Céline Dion ou bien Les Enfoirés pendant que tu joues à ton baby-foot de pucelle. Alors ouais,
il écoute Cabrel. Je balance, il écoute Cabrel.
Bon, je pense pas mieux. J'ai dit que j'étais gentil avec Lazarus ce soir, pas avec toi, hein. Faut pas abuser non plus. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Lazarus, qui nous fait à peu près rabâcher ça 58 fois en 3 ans, a joué dans un groupe de zik à l'époque. Et même si ça nous fait marrer de l'imaginer en train de jouer du trombone en costard rouge dans la fanfare du village, c'est un métallos le Lascar. Il a joué du graou graou dans un groupe obscur dont il nous a jamais donné le nom, mais il nous a toujours vanté le succès. Alors moi, j'aime à imaginer qu'il jouait du brutal death bien crado dans des caves voûtées qui puent la mort devant un public composé de gothiques habillés en noir avec des visages blancs comme des merdes de laitier et des clous rouillés sur leurs bracelets. Du coup, tout ça pour dire que j'ai cherché un flipper sur le thème du métal. Bon, ça, il y en a quand même quelques-uns, hein. Mais qui soit totalement flingué. Et ça, eh ben, figurez-vous que ça existe et que c'est même devenu culte, tellement c'est cringe. J'ai nommé Heavy Metal Meltdown. Oh, c'est putain. Sorti chez Bally en 1987. Et en 1987, niveau métal, si tu veux, t'es pas dans ce qu'il y a de moins cliché, hein. Ce qui marche, c'est le côté glam, un peu bad boy mais limite androgyne, qui fait hurler ta mère quand tu balances les watts de ta chenifie une fois que t'as mis la dernière cassette de Manowar, et qui fait bondir ton père qui te balance les pires insultes homophobes quand il voit la tronche de Dee Snider des Twisted Sisters à la téloche.
Ah, il y a du coup, référence.
Bonne pioche pour Bally qui tape en plein dedans. Il y a qu'à voir la tronche de la bague glace et du plateau pour s'en convaincre, hein. T'as l'impression de voir Bon Scott équipé d'une gratte sur l'artwork de la bague glace ou encore Vince Neil sur le plateau. Mais à la limite, c'est presque pas trop moche et raccord avec le thème si t'occultes le fait que c'est encore un consultant coloriste de chez Gottlieb qui a dû ramener ses 3 putains de couleurs primaires en décidant de jamais les mélanger tellement la colorimétrie est ratée. Hein, Bally, juste quand on mélange des couleurs, ça en fait des nouvelles. Hein. Et accessoirement, quand on appuie plus ou moins fort avec un pinceau, ça peut aussi faire des dégradés. Faut pas hésiter. Hein. Mais non, on laisse ça tout moche. Hein. C'est pas du tout dans l'esprit, mais on s'en branle. De toute façon, on a mis tous les sous dans le topper. Alors, mon petit Laz, si tu trouvais que le topper était trop gros sur le dernier pétrole multimorphique, accroche-toi à ton froc avec celui-là, hein, parce que là, t'as carrément la chenifie et l'ampli posé sur le flipper. Bam, 40 cm, 10 kilos de bordel. Tu fais passer ça sous aucun plafond de cave à l'heure actuelle. Si tu veux ce flipper dans ta collection aujourd'hui, il faut de la hauteur sous plafond, mon gars. Bon, niveau style, on repassera. Mais sur un flipper musical, finalement, le plus important, c'est le son, non? Ah bah alors là, les copains, on est sur de l'art. Hein. C'est probablement pour ça que ce flipper est devenu aussi culte. Comment vous décrire ça? C'est à peu près aussi agréable que si on me passait un cactus très vite dans l'arrêt à chaque partie que tu lances. Et cet enfer auditif s'arrête une fois que t'as perdu. Et crois-moi, t'es content quand tu perds. Non, parce que le game designer a une idée de génie. Idée qu'on n'a jamais reprise sur aucun flipper par la suite, ce qui n'est jamais très bon pour une idée dans le monde du flipper. Hein. Il s'est dit qu'il allait baser son gameplay sur le fait de jouer une mélodie avec ta bille. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais que cette mélodie allait se jouer avec des riffs de guitare différents à chaque fois que tu touches une cible, un switch ou n'importe quel élément du plateau, pendant qu'en sonorité de fond, t'as à peu près toujours la même rythmique de basse et de batterie. Alors en pratique, ça donne l'équivalent d'un groupe ultra rigoureux sur sa rythmique avec un solo de gratte fait par un mec qui apprend à jouer et appuie sur toutes les cordes en même temps, pose son médiator au hasard en espérant que ça sorte un truc cool. Résultat, au bout de 5 minutes, t'as envie de terminer le flipper à coups de hache tellement t'as l'impression qu'il veut du mal à tes esgourdes. Alors bon, vous commencez à me connaître, je fustige systématiquement chaque machine de cette chronique alors qu'en pratique, soit j'aimerais tester ceux que j'ai jamais eu l'occasion d'éprouver, soit j'aime ceux que je dérouille pour tout un tas de raisons inavouables. Ah, c'est une sorte de plaisir coupable, un peu comme quand tu vantes les mérites de la gastronomie française, mais que tu gémis de plaisir en dévorant un Big Mac sur le parking du McDo dans ta bagnole. Il est bien ce Heavy Metal Meltdown. Il est cool à jouer, le plateau est bien foutu, les mécaniques de jeu sont intéressantes, le lock de ball dans la rampe centrale qui t'envoie un multi-ball de l'enfer avec des call-outs insane et un light show digne du Parc des Princes, eh ben ça envoie putain. Et j'ai que des bons souvenirs sur cette machine en vérité. Et même si en effet la mélodie que vous arriverez péniblement à composer sonne comme un concerto de guitariste bourré, bah avouez que faire un flipper sur le thème du heavy metal bien cliché, il fallait oser.
Fallait oser. Merci très bien. Beaucoup. Ah, super. Mais
t'es jamais meilleur que sous la pression, tu vois.
Oui, c'est ça.
Parce
exactement.
Que celle-là, elle est sortie rapide. Hein. C'était une heure avant le podcast.
Il y a 5 heures, il y a 6 heures à peine. Même pas.
De quoi la chronique?
Ouais.
Ah ben non, c'était une heure avant qu'on fasse le podcast. Et bah, c'était il y a 2 heures, là.
Ouais, bah, voilà. Bah, franchement, bravo. Merci beaucoup, une fois de plus, pour la chronique. Aaron appréciera particulièrement le petit tacle au coloriste de Gottlieb, j'en suis sûr. Il apprécie toujours les petites remarques bisouteuses à Gottlieb.
Non, après, voilà. C'est surtout le son qui est éclaté sur ce flip. Après, en vrai, le flipper est bien. Moi, je l'aime bien, mais c'est vrai que l'idée, elle est marrante, en fait, de se dire tu vas jouer des riffs de gratte avec ta bille. Mais en fait, c'est juste, c'est impossible de faire un truc propre. Ça part dans tous les sens, ça te fait un... Enfin, écoutez vraiment, allez sur des vidéos sur YouTube, ceux qui n'ont jamais joué à ce flipper-là. Écoutez les vidéos YouTube, vous allez vous marrer. Hein. Ça donne un truc qui ne ressemble à rien. Et ouais. C'est ça, continuellement.
Ils auraient dû faire comme sur Guitar Hero quand tu joues en facile, c'est tu fais une note et ça te fait 10 secondes de mélodie pour que tu enchaînes les trucs. Mais ça n'existait pas à l'époque, Guitar Hero, donc ils n'ont pas inventé toutes les mécaniques qui vont avec, effectivement.
Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, c'était super. Une fois de plus, grâce à toi, nous avons découvert un super flipper.
Il était à Pontac, tu n'y avais pas joué, toi, cette année-là ? Il y en avait un.
Non, mais à Pontac, j'ai eu le temps de rien faire. J'étais en train de courir après une connexion Internet à la con.
Dit-il alors qu'il était qu'un verre de whisky en train de jouer sur des Gottlieb, ça, tu te fous pas de ma gueule,
Ah non, pas du tout. Ah si, mais à 3h du mat. À 3h du mat.
Bah oui, quand on a le temps de jouer, c'est à 3h du mat. C'est pas bon.
Ah oui, à 3h du mat, une fois, on était justement sur le Gottlieb avec Aaron à un moment donné. Oui, tout à fait. Mais non, avant, non, cette journée, je ne l'ai pas vu passer. Hein. C'était l'horreur. J'ai eu un train m'est roulé dessus. L'ampli 4x12 pouces en topper, ça a de la gueule pour un Zico, ça, mon vieux. Bah oui, tout à fait, exactement. La Poucave, oui, Sylvain, un petit côté Poucave. Mais on peut Poucaver aussi un petit peu. Nous avons fait comme.
Mais moi, j'ai pas d'honneur, hein, j'ai jamais dit l'inverse. Hein.
Ah oui, nous avons fait un joli gland à gland dans la chambre de Pontac à un moment donné. Et ça, voilà, ça c'est la légende urbaine de ce festival de flippers.
Mais basé quand même sur des faits réels, donc après à vous de voir jusqu'où le curseur est à positionner.
Voilà, c'est exact, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une base de vrai.
C'est même pas une vanne en plus.
C'est vrai qu'il y a une base de vrai et une base de faux. À vous de découvrir à quel moment ça s'est arrêté. Et on enchaîne du coup sur.
Sur le Barry Oz Barbecue Challenge. On va peut-être laisser Sylvain qui s'est coltiné la preview faire l'entrée en matière sur le sujet.
Oh bah, de toute façon, lui, dans 5-6 ans, il est dans la rubrique, il fait l'osé. Hein. Je lui laisse juste le temps de s'installer. Hein.
Attention, ouais, j'ai quand même des trois... Vas-y, je te laisse.
Ouais, alors, bah, de toute façon, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller lire la preview qu'il y a sur le site. J'en parle un peu plus longuement. Comment résumer ? Alors, si vous n'avez pas suivi le... Parce que finalement, l'entrée en matière et le reveal de ce flip par American Pinball s'est fait un peu à l'arrache. C'est tombé un peu comme un cheveu sans la soupe, sans vraiment de communication préparée. Il n'y a pas eu de vrai beau teaser, il n'y a pas eu de vraie vidéo de gameplay. C'est un peu voilà le truc. On sort un nouveau flipper, c'est sur le thème du barbecue. Moi, je pense comme beaucoup au départ, quand on a vu les premières photos arriver, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc encore. Sous-entendu, surtout connaissant American Pinball, t'as envie de dire putain, mais ils en ont pas assez quoi. Ils nous sortent des thèmes éclatés à chaque fois. Ils veulent pas un peu essayer de faire un truc qui tienne la route. Ça, c'est la première lecture. Et quand on creuse un petit peu, le Barry Oz, il n'est pas là pour rien. C'est un flipper hommage à Barry Osler, qui est un grand, grand designer du flipper, qui a fait tout un tas de flippers, tous plus ou moins incroyables. Bref, un grand nom, et qui nous a quittés, c'était en 2022, je crois, des suites d'un cancer. Donc, on est vraiment
au moment où il a rejoint American Pinball.
Exactement. Au moment où il venait de rejoindre American Pinball. Donc, du coup, ceci explique cela. Ils ont voulu lui faire un hommage. Le geste est plutôt chouette. Bon, il y a quelques trucs aussi dessus. On en avait parlé un petit peu avec Nico. En gros, on ne sait pas trop ce que ça représentera en termes de montant, mais ils expliquent qu'il y aura des royalties qui seront reversées. Alors, je sais plutôt à sa famille. Voilà, un peu en hommage à sa contribution pour le milieu du flipper pendant des années. Pourquoi pas? Le côté barbecue, j'ai beau y creuser, à moins que le mec était vraiment fan des barbecues, je pense que c'est surtout histoire de dire, quand on pense à un truc fun et un truc convivial aux États-Unis, ce qui revient quand même assez souvent parce que c'est un peu une religion chez eux, c'est le barbecue. Le type devait aimer un peu les hot rods, etc. Donc du coup, ils t'ont calé un espèce de truc un peu cliché à base de barbecue, de sauce piquante et de hot rods. Encore une fois, pourquoi pas, à la limite, une fois qu'on a ça en tête, j'ai envie de dire, ça pourrait faire la blague. Sauf que sans parler du gameplay, parce qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps ni de voir réellement de vraies vidéos. Alors là, ça commence à sortir un peu, mais quand j'ai écrit la preview, il y avait une seule vidéo qui était trouvable sur Internet et qui rendait pas ça non plus foufou. Et au-delà de ça, la machine est excessivement moche. Le thème déjà, bon, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, on n'est pas dans les années 90, donc les thèmes un peu originaux comme ça, c'est toujours une prise de risque aujourd'hui. une prise de risque que même le plus grand ne prenne plus. Donc à un moment, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui fait vendre aujourd'hui, c'est pas un thème sur le barbecue. Ce qui fait vendre, c'est des licences. Voilà, on appelle un chat, c'est ça. Donc encore une fois, un thème sorti de nulle part, flipper hommage, pourquoi pas, excessivement moche, où à un moment, il va vraiment falloir qu'il fasse des efforts sur le design, parce que c'est pas possible, et je le note une fois, à un moment dans la preview, on peut pas vouloir mélanger du photoréalisme, du dessin, ça marche pas. La bague glace, elle est très jolie, elle est dans l'esprit, voilà, j'ai envie de dire flipper, dessin un peu cartoonesque, qui marche très bien. Pourquoi ils nous font un design sur le reste de la caisse qui ressemble à rien, quoi. Enfin, la photo des bûchettes devant, mais c'est ni fait ni à faire. Il mélange dans l'artwork du dessin avec du photoréalisme, c'est ultra moche. Sur les plastiques, sur le plateau, c'est pareil. Enfin, les plastiques aujourd'hui mélangent, les plats en fait sont en photoréalisme alors que le reste c'est du dessin. Ça ressemble absolument à rien. Et c'est vraiment dommage. Le plateau, quant à lui, bah, c'est une sorte de street level un peu amélioré. Donc s'il n'y avait pas des rampes, on serait sur un truc très plat. Avec pareil. C'est un peu. Pareil, ça ressemble un peu à une sorte d'hommage aussi dans le design, hein, côté très rétro, avec tu mets tes trois bumpers en face, enfin, c'est ultra old school, ta petite rangée de ton petit pont de couloir en haut. Bon, c'est pas, voilà, c'est quand tu le vois, il n'y a pas de mécanique qui est vraiment intéressante, il n'y a pas de toy, il n'y a rien. Du coup, bah, ça fait un truc assez bof, avec un lancement en plus de ça raté. Et je vais conclure, de la même manière que j'ai conclu la preview, c'est que s'il n'y avait pas cette histoire d'hommage à Barry Rosler, sincèrement, est-ce qu'à un moment, on se dirait ça vaut le coup de l'essayer? Je suis même pas sûr. Et quand on regarde les retours aujourd'hui des ricains dessus, à part quelques puristes qui se disent c'est génial, on va retrouver un truc un peu à l'ancienne, etc. La plupart, c'est en mode mais qu'est-ce que ça fout là, enfin, et encore une fois, pour American Pinball. Testern, tu lances des trucs qui font pépite sur pépite à chaque fois, tu peux te permettre de faire un petit modèle comme ça de temps en temps, un peu à la marge. American Pinball, je crois qu'aujourd'hui, ils ont vraiment pas ce luxe-là. On va pas refaire les précédents podcasts. Ils vendent pas assez. Ils vendent pas ce qu'ils devraient vendre. Donc, super prise de risque sur un thème bof. Dommage. Dommage parce que le Galactic Tank Corps avait vraiment remis la barre, en tout cas haut, même si c'était un peu tard. Il pesait quoi, vraiment dans le jeu. Bah là, c'est un peu dommage, quoi.
Nico ?
Sur le fond, je suis assez d'accord. Effectivement, les premiers retours que j'ai eus, et notamment en commentaire de la preview version anglaise, disaient que le gameplay était pas super. Patou disait que lui, à l'inverse, il avait vu un live où les gens lui trouvaient des vertus, en tout cas à ce plateau et à ce type de jeu. Ouais, c'est on comprend pas bien, enfin au-delà du flipper lui-même, on comprend pas bien la stratégie de le sortir maintenant. C'est comme s'ils avaient été pressés de quelque chose. Et voilà, après
pour le TP, peut-être le TPF.
Ouais, peut-être, mais bon, enfin, quand t'es American Pinball et que tu sors pas 15 000 machines non plus, prends ton temps, quoi. Personne leur demande de faire la course, hein.
Ça, on est d'accord.
Honnêtement, il y a tellement à faire et à vendre sur le Galactic Tank Force qui mettent pas si en avant que ça, en fait, par rapport aux autres, voilà. Ou que nous on a trouvé sympa et original, et ben, enfin vraiment, enfin il y a un univers complètement décalé. Il y a un designer qui peut encore le défendre, qui peut encore améliorer le code, et c'est ça, c'est Dennis Nordman. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont précipités pour sortir cette machine qui effectivement tombe à plat et ça fait un peu, on se sentait obligé, alors on l'a sorti, mais on fait le minimum syndical, quoi. Bizarre. Alors, petite anecdote que je te laisse raconter, Lazarus, sur ta vignette.
Ah oui, alors oui, petite anecdote, c'est que effectivement, donc comme d'habitude, on se répartit un petit peu les tâches à Pinball Mag, et puis donc Sylvain réalise cette excellente preview, et en fait, il me demande est-ce que tu peux me faire une petite vignette. Donc je fais la vignette, et chose drôle, c'est que American Pinball a partagé cette vignette en tant que story. Dans leur story officielle, alors qu'effectivement...
En nous taguant.
De quoi ?
La première fois, ils nous ont tagués.
Oui, ils nous ont tagués. Exactement, ils nous ont tagués et ils nous ont, voilà, ils ont partagé en fait ta preview et qui est pas forcément une preview, on va dire bien, qui est
bah, pas forcément. C'est pas leur honneur. Ouais.
Voilà, c'est pas leur honneur, on va dire. On va, voilà. Le but une fois de plus, c'est pas de les descendre, hein, bien évidemment. On a rien contre American Pinball ni contre aucun d'ailleurs fabricant. L'autre truc par contre qui était assez drôle, c'est qu'en fait ils m'ont piqué littéralement ma vignette en fait pour faire leur promotion maintenant en fait sur des fly à eux. Et ça, j'ai trouvé ça. Bah, c'est chier, mais bon...
Je trouve ça marrant, moi, c'est de
ouais, bien. C'est marrant,
mais bon, c'est un peu chier. C'est-à-dire
que les mecs... Ils
piquent ta vignette, ils font des flyers avec, moi, je trouve ça marrant.
Voilà, ils ont pris ma vignette, en fait, pour faire des flyers pour des soirées, en fait, sur, de lancement sur leur truc. Et bon, je trouve ça drôle, ça me fait sourire, je vais pas en faire un cake. Mais bon, si vous cherchez un mec qui sait faire du design, vous pouvez m'appeler, si vous voulez. Et donc, voilà, non, c'est vrai que c'est un petit peu drôle. Après, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser de ce flipper, parce qu'il y a plusieurs aspects. On a évoqué effectivement qu'il avait été designer Barry de notamment pas mal de flips et notamment un flipper qui s'appelle Junkyard qui on rappelle un peu le concept. Vous êtes dans une décharge, vous devez récupérer des déchets pour pouvoir construire votre fusée. Grosso merdo, c'est ça le délire.
C'est ça. Hein,
voilà. En fait. J'ai un petit souci avec ce flipper, pas avec le junkyard, mais avec le barbecue, parce que il soulève pas mal de choses en réalité. En réalité, on est toujours à gueuler qu'il y a trop de licences. Quand il y a pas de licences, on gueule. Il y a trop de zombie Yeti, il y a trop de Christopher Frenchy, il y a un mec qui se lance dans un artwork, on gueule quand même. On dit toujours, ouais, on aimerait bien, ça sert à rien de nous foutre des toys partout parce que ce qui compte, c'est le flow. Apparemment, il y a du flow parce qu'il n'y a pas de toys. On gueule. Il y a trop de rampes. Là, il n'y en a pas, c'est un street level. On gueule. En fait.
Tu y as quand même quelques rampes.
Oui, c'est sur les côtés, pardon, sur les côtés. Voilà, j'ai du mal à voir la lecture. Ce que je peux dire, c'est qu'à la limite, le thème, pourquoi, je te dirais au final, pourquoi pas.
Oui,
pourquoi pas, mais peut-être plus effectivement dans les années 80-90. Aujourd'hui, comme tu l'as dit Sylvain tout à l'heure, une licence me paraît assez primordiale pour réussir, quoique, une fois de plus, nous avons l'exemple franco-français d'Hexapinball. Et je ne le dis pas parce que c'est des Français, parce que j'apprécie les gars, parce que c'est une excellente bonne machine. Mettez les mains dessus, justement, OpinionAnswer ce week-end, et vous allez voir. Franchement, c'est une excellente machine. Un constructeur aussi qui écoute, d'ailleurs, les retours, hein, qui a fait certaines modifications, soit au niveau du code, soit au niveau du plateau. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le côté flamme.
Ça m'étonne même pas, tiens.
Non mais Hot Rod, Rockab en bas, je trouve ça rigolo. Bon, après les animations de barbac en train de cuire tout le temps, je sais pas si honnêtement quand j'ai fait les vignettes ça m'a donné faim. D'ailleurs c'est le sentiment que j'ai partagé avec l'équipe au moment où j'étais en train de faire des vignettes parce que j'en ai fait 4 ou 5 je crois des vignettes et je dis vous choisissez celle que vous préférez. Et en tout cas, je dis putain, je pourrais faire ça tout le temps parce que ça me donne faim en fait. C'était assez rigolo. Mais en fait, je sais pas trop quoi en penser. J'aimerais honnêtement jouer ce flipper pour pouvoir me dire est-ce que j'ai du fun, parce que je suis persuadé que avec une bière, eh ben on prendrait du fun à jouer à ce jeu. Là, par contre, là, la grosse critique que l'on a, c'est effectivement l'intérêt marketing d'une telle machine dans une telle époque avec de tels rivaux ou concurrents qui sont. Jazz et Jack Pinball, Stan Pinball, Spooky Pinball, Pinball Brothers. Quoi. C'est vraiment. Le choix marketing est effectivement très surprenant. Après, il y a une culture barbecue aux États-Unis que nous n'avons pas en France. Donc, clairement, American Pinball ne mise pas sur le marché français, voire même européen, pour pouvoir percer. Mais est-ce que ça sera suffisant? Parce que, en fait, leur politique est de placer ce genre de machine en fait, dans des espèces de brasseries, un peu comme ce que Stern fait actuellement, hein, c'est de placer des machines chez les brasseurs. Hein. Si vous voyez ça se développer aujourd'hui en Belgique, c'est pas anodin, hein, c'est pas genre le fruit du hasard. Hein, c'est une démarche en fait de foutre des machines chez des brasseurs. Alors en Belgique ils en ont, en France on en a aussi, mais on n'a pas la même culture d'ouvrir nos brasseries, enfin de la même façon. Donc voilà, mais c'est clairement le modèle américain qu'ils essayent d'exporter. En France ça marchera. Par contre en France ça marchera jamais, ça c'est sûr et certain.
Mais encore une fois
Le problème, c'est pas le thème. Le problème, c'est déjà, moi, je. Enfin, après, la remarque n'engage que moi. Je le trouve moche. Mais c'est surtout que c'est American Pinball. Je veux dire, à un moment, tu peux te permettre, quand tu es un grand ponte sur le marché, de sortir ce genre de truc-là et de sortir un truc un peu plus anecdotique, un peu plus à la marge.
C'est un peu ça.
Une sorte de Wanelli, ouais, c'est ça, un truc un peu décalé. Pourquoi pas? Et encore que le Wanelli, je suis désolé, mais en termes de design, en termes d'approche, de construction avec la caisse, etc., on n'est pas sur le même niveau de finition et de fun. Tu vois, je trouve qu'il y avait une vraie campagne en plus marketing qui avait été lancée à l'époque du Wanelli. Enfin, rappelez-vous, hein, il y avait carrément Gary Stern qui posait à côté des PLV marqué Big Juicy Melon, ce machin, avec des vieux jeux de mots dégueulasses. Enfin, t'avais un vrai sens de la mise en scène pour vendre le truc, ce qui est absolument pas le cas de ce flipper-là. Et encore une fois, on parle d'American Pinball. Ils sont pas aujourd'hui dans le peloton de tête, ils sont sur la fin du peloton en fait. Et ils ont déjà du mal à convaincre avec leur machine déjà précédemment sortie. Alors oui, c'est pas une licence. Oui, on dit il faut pas. Après, licence ne sous-entend pas forcément bonne machine. Typiquement, il y a la licence, c'est ce que t'en fais. Quand ils ont fait le Hot Wheels, ils ont pas fait spécialement une Rolls-Royce non plus. Hein. Ils ont une licence qui était cool. Ils ont fait un flip qui est quand même très moyen, hein, avec des mécaniques quand même assez bof. À un moment, ils relevaient le niveau avec Galactic Tank Force, et là, ils redescendent encore au plus. Enfin, je suis désolé, ils redescendent bas, quoi. Enfin, et je suis convaincu qu'ils en vendront pas de ces trucs-là. Ils en vendront pas.
Bah, on nous dit effectivement pour le côté beauf. Alors je sais pas. Enfin une fois de plus, je sais pas si c'est beauf. Mimo nous dit effectivement, nous on est plus apéro que barbecue. C'est pour le coup là, c'est vrai. Si on veut miser sur un marché européen, en tout cas français, on est plus apéro que barbecue, je pense effectivement. Pour le côté beauf, tu mets ce flipper à côté de l'Octoberfest. Oh, franchement, l'Octoberfest. Hormis le code qui est imbitable. Enfin moi j'ai jamais rien compris à ce code. Il a quand même. Ils ont exploité une licence qui est quand même. Il est beau ce flip. J'aime pas la licence, carrément. Mais il est beau. Je sais pas
il
comment
est beau, il y a des belles mécaniques
avec les voitures de tamponneuses et il est vraiment pas. Il mérite plus de considération, je pense. Mais voilà. Après, on réfléchit chez Flipper VR à faire une table sur le cassoulet. Évidemment.
Alors, voilà. Du coup, j'enchaîne. Et après, il y a aussi le positionnement prix. Si je me souviens bien, ce flipper, c'est à peu près le prix d'un Stern Pro.
Ouais, c'est autour de 9 000 $, je crois, la version.
Justement, Zex serait avec nous.
Oui, mais c'est pour ça que je lui rends hommage à Zex en disant entre un Stern Pro et un Barbecue Challenge, n'importe quel Stern Pro, il n'y a pas débat. Tu peux faire une machine comme ça si tu dis je ne mets pas beaucoup de trucs dedans et du coup, je ne la vends pas très cher et ça fait un truc d'entrée de gamme à la limite. Mais là, même en positionnement tarifaire, ça ne va pas. Et je réagis à ce que j'ai épinglé une remarque d'Aaron qui dit « Je me demande s'ils ne l'ont pas sorti suite aux quelques rumeurs concernant le rachat de la boîte. On voit qu'American Pinball est aussi beaucoup plus présent sur les réseaux et les streams depuis, et c'est un bon point. » Alors, peut-être qu'ils l'ont fait dans ce contexte-là, mais c'était le plus mauvais move à faire pour rassurer un investisseur. Qui connaît un peu le marché, je veux dire, hein. Dans le sens où c'est pas parce que tu sors de la merde que ça prouve que t'es en bonne santé. Ça ressemble à de la fébrilité, c'est ça que ça fait, si c'était fait dans cette idée là le fait qu'ils communiquent plus, on est tous d'accord, c'est très bien. Effectivement, il y avait que Stern qui tenait une communication régulière. Alors il y a Pinball Brothers là qui s'y met aussi un petit peu, mais eux du coup ils commencent à avoir aussi une communication régulière. Ben c'est super. On le sait bien nous-mêmes. Faut tenir dans la durée. Hein, c'est ça qui est pas facile.
Enfin, il faut avoir leur lancement quand même. On s'en fout qu'ils fassent des lives sur le Hot Wheels, le Houdini. On s'en bat les couilles. Ils sont sortis il y a 20 ans. Il y a 5-6 ans, ces flips.
Oui, mais on est d'accord. C'est la démarche de montrer qu'ils sont vivants à leurs clients. Ils le font par leur nombre de publications sur les réseaux sociaux. Ça a pas vocation, enfin ça ne peut pas rassurer les clients d'avoir ce type de flipper qui sort sans annonce, sans préparation, sans communication autour, et un investisseur un peu averti se fera pas tromper à ça. Et je ne pense pas que quand quelqu'un compte acheter une boîte, il regarde le nombre de produits qu'il a sorti récemment. Il va regarder le nombre de clients, le volume de commandes et là-dessus ils ont du boulot justement.
Et alors, Tichy nous demandait le nombre d'unités produites. J'en ai aucune idée. Je ne pense pas qu'ils aient prévu réellement de trucs.
Si, tu as les limités. Tu as un nombre de.
Ah, il y a des limited. Il y a quand même une édition limited. J'avais pas fait gaffe.
Attends, non, je l'ai mis. Ouais, si t'as les deux versions. Alors, je sais plus s'il y a un truc, mais t'as au moins une version qui est limitée. Attends, je reprends ce que j'avais mis.
Non, mais ça aussi, deux niveaux de gamme pour un flipper confidentiel comme ça, c'est juste emmerdé pour rien.
100 pour les LE, on nous dit.
Ouais, c'est 100 pour les LE, ouais, c'est ça. Après, la version classique, il n'y a rien qui est annoncé, mais de toute façon, ils en font s'ils en vendent, quoi. Donc après, je pense qu'ils ne vont pas sortir des batchs énormes.
Non, mais ils vont même pas atteindre les 100 sur leur version collector. Donc
Après, ouais, c'est ce n'est pas le thème qui me gêne, mais plus le design ou l'artwork, nous dit.
Le thème, il est rétro. On peut assumer du rétro. Hein. Enfin, c'est
ouais,
sympa.
Ça peut être un bon délire.
C'est rétro. Enfin, la série est rétro volontairement. Et pourtant, elle utilise les codes d'aujourd'hui. Là, c'est rétro. Et il a l'air pire que Junkyard, qui est pour le coup un bon flipper. Mais ça, le truc, c'est que c'est une année 90, pas remis au goût du jour, hormis l'écran sur le plateau.
Je vois Alf qui dit, j'imagine le topper avec, comme le Whirlwind, avec un ventilo avec des odeurs d'andouillette. C'est formidable.
Mais personne ne fait de l'andouillette au barbecue. Il n'y a,
que moi pour faire ça. Exactement, tout à fait. C'est très bon.
Bien sûr que si, tout le monde fait de l'andouillette au barbecue, tu sors de toi.
Bien sûr.
Oh là, c'est dégueulasse.
Bref, il n'aime pas ça, lui.
Ben non, ça pue le vieux d'EHPAD. Enfin, une andouillette.
Ça pue le vieux d'EHPAD.
Ça sent l'intestin, ouais, on est d'accord. Ouais.
Il y a quelque chose, de plus inquiétant qu'autre chose. Alors après, il se peut, parce que le monde n'est pas que rationnel, il se peut que ce soit... ça soit une vraie démarche désintéressée de, je sais pas, le Steven Bowden qui fait partie de l'équipe de design ou un truc comme ça, qui a eu envie parce que il aimait son mentor de lui faire une machine hommage, et ses chefs lui ont dit allez ok, on l'aimait bien le bonhomme, il y a pas de souci, vas-y, c'est pas pour des histoires de pognon, c'est pour la beauté du geste. C'est possible. Écoute, enfin il y a bien des gens qui s'amusent à faire qui font des homebrew avec zéro espoir de les vendre derrière, alors qu'ils ont passé
Encore une fois, on parle d'une boîte, les mecs, c'était quand même logique mercantile derrière, tu vois, c'est pas une ONG, ils sont quand même censés faire du pognon.
Mais justement, des fois, beaucoup moins que ce qu'on pense. Et puis c'est une boîte familiale derrière, tu vois, le patron, il attend pas après American Pinball pour s'acheter sa Rolex, quoi, tu vois. Enfin, c'est des industriels, c'est des manières indiens de l'industrie. Ils ont.
Auquel cas, c'est louable. C'est un travail de passionné, et là, très bien. Mais d'un point de vue marketing business, c'est complètement idiot.
Il y a Tataï qui nous dit je viens avec un ami, il parle de la Jaws, hein, le Pinancer ce week-end chez Planète Jeux, et il prendrait bien la place de libre pour le tournoi. Bah écoute, premier arrivé, premier servi, Mimo, merci beaucoup d'avoir remonté l'information.
Ouais. Et c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Hein. C'est bien de nous prévenir parce que du coup, on sera vigilant samedi. Voilà. Mais il y a des gens qui ne se présentent pas, il y a même des gens qui ont payé et qui ne vont pas se présenter, ça arrive. Donc vraiment, c'est premier arrivé, premier servi, sur place.
On fera pas de préférence ni quoi que ce soit. C'est vraiment. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur cette machine. Bien évidemment, je suis curieux d'y jouer. Je suis curieux de. Et une fois de plus, comme on le dit, le thème, j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas pourquoi pas. Enfin, ça dépend dans quel délire ça part. Mais je suis pas, honnêtement, je suis pas persuadé qu'on est devant face à un génie de code, un génie de flow et un génie d'animation. Voilà. Chose que, par exemple, pour avoir discuté avec deux d'entre vous cet après-midi, enfin plusieurs d'ailleurs, mais là sur ce sujet-là, ou notamment sur une fois de plus le Venom qui est en train de renaître de ses cendres, j'ai envie de dire, dans l'intérêt de certains pinheads, qui vous êtes plusieurs à me contacter à ce sujet, à vous dire que vous êtes fait influencer, on va dire, négativement cette machine, alors qu'en réalité vous l'avez jouée et qu'elle est excellente. Oui, c'est pas parce que c'est un fan layout que c'est une machine pourrie. C'est pas parce que le fan layout, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. L'intérêt d'un flipper réside dans sa structure, dans sa relation qu'il a avec un thème, une licence, dans l'exploitation que le code en fait, et des mécaniques qui sont mises en place pour pouvoir satisfaire tout le scénario. C'est une alchimie, en fait. Hein. Et là, honnêtement, j'ai l'impression que sur le American Pinball, on n'a pas ça. Voilà. Même si le thème pourrait être validé, j'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose qui soit vraiment excellent. On verra bien. Voilà.
Est-ce qu'on passe au suivant ?
Ouais, bien sûr qu'on passe au suivant.
Au sujet suivant. Donc, c'est les accessoires du Foo Fighters chez Stern. Ça date d'il y a deux semaines, un truc comme ça, mais vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, on en parle maintenant. Si ça vous va...
On est d'accord, Chiaf. Vas-y.
Ouais, tu me coupes la parole, mais
oui,
je parlais quand même.
Oui, rien à foutre.
Donc, Stern a annoncé des accessoires il y a 2 semaines ou un truc comme ça. Dans l'ordre des trucs qui sont intéressants, le plus intéressant, bien évidemment, est ce gros topper avec une tête qui n'en jette. Alors, j'ai pas forcément, enfin, elle est reprise sur la back glass, donc ça fait partie de l'univers. Ça a l'air d'être la tête de Dave Grohl avec.
C'est le boat. En fait, vous souvenez, vous devez récupérer la tête, le corps, les bras, les jambes, etc. du full boat, et en fait, c'est la tête du full boat qui est là-haut.
Voilà. Et ben du coup, ce topper, il envoie du bois. Ce topper est interactif dans le sens où il bouge et tout le monde, comme l'a fait Patou dans le chat, fait la filiation avec le topper du Black Knight Sword of Rage, qui est un peu sur le même principe avec une tête qui bouge. Ce topper du BKSOR, il est top. Honnêtement, il est trop beau. Je le vois régulièrement dans la game room d'un Pinhead et vraiment, il envoie. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas fan des toppers dans l'absolu. Il faut vraiment qu'il soit beau pour qu'il m'intéresse. Et celui-là, il a l'air vraiment de déchirer. Alors attention, ce n'est pas un topper avec du code complémentaire. C'est pas comme le topper du Mandalorian. On aurait pu croire que c'était le début d'une aventure et qu'ils allaient faire tout comme pour le Mandalorian désormais. Mais non, Jack Danger, qui est le designer du flipper Foo Fighters, l'a précisé à plusieurs reprises dans son stream parce que c'était pas tout à fait clair. Et d'ailleurs, on n'était pas forcément d'accord avec Laz sur le sujet lors de la communication écrite. Mais non, ce topper n'ajoute pas de mission complémentaire. Les missions qui ont été ajoutées sur le Foo Fighters sont liées à une mise à jour du code qui est passée en version 1.0 et tout le monde y a droit, toutes les versions de Flipper avec ou sans topper. Donc ça, certains diront c'est très bien parce que du coup c'est pas la prime à celui qui paye le plus. Après ça reste quand même un topper à 2000$, donc on n'avait pas les prix encore, on n'a pas encore les prix en France, en euros. Mais ça sera du coup plus cher que ça sera plus que 2000€, c'est sûr. Et là on peut se dire, bien, ça fait cher pour un truc où il n'y a même pas de code supplémentaire. Bah, ouais, écoutez, c'est l'avantage de l'inconvénient, quoi.
Ouais, après voilà, moi je suis un peu lassé de voir des commentaires sur le prix dans le sens genre, oh là là, à la fabrication ça coûte 50$. Bon, les gars, il y a plein de trucs comme ça. Est-ce qu'une baguette de pain, ça coûte 2 centimes à la fabrication et pourquoi on l'achète 1,20€, quoi ? Enfin, c'est le même délire.
Ouais,
c'est
mais là, large, tu passes un cap. Là, tu peux pas.
Ah, mais j'ai pas dit que
c'était
autant
pas je suis d'accord avec toi sur le fond, autant on parle de 2000 boules.
J'ai pas dit que c'était pas cher. Mais c'est juste le rapport du jour du bout de plastique. On vous rappelle qu'on n'est effectivement pas dans une œuvre de charité. Les mecs ont traversé quasiment 20 ans de désert en ce qui concerne Stern, de traverser du désert. Bah, les mecs, ils peuvent se gaver un peu à un moment donné. Et une fois de plus, personne ne vous oblige à acheter ces putains de toppers, d'accessoires, de machines ou quoi que ce soit.
Pour revenir sur le topper, Aaron et Scaf Nomad nous disent des trucs tout à fait justes. Le topper du Foo Fighters bouge la tête de gauche à droite, mais pas de haut en bas, alors que du coup, sur le Black Knight, le topper est plus mobile de la tête, il est plus souple sur ses appuis. Et effectivement, le topper Foo Fighters indique l'avancée de la progression vers un nouveau multiball qui a été ajouté lors de cette version 1.0 du code, et c'est censé faciliter le suivi de ce multiball. Mais bon, en jeu, concrètement, on lève rarement la tête jusqu'au topper pour voir où on en est, ou sinon c'est à la fin d'une bille. Donc, personnellement, je trouve pas que ça fasse énormément la différence.
Il y a débat. Aaron nous dit que c'est clairement les deux meilleurs toppers de Stern. Je suis pas d'accord.
Bah non, c'est le Mando le meilleur.
Le Mando, pour moi, est déjà superbe. On a aussi quand même... Alors, pour l'ambiance, j'aime beaucoup celui du Ghostbusters, ce que je trouve vraiment, parce que c'est le gyrophare d'Acto One et ça marche... Voilà,
c'est un peu efficace, ouais.
Voilà. Et il y a quand même le topper Elvira en termes de réalisation et d'ambiance qui est... voilà. Mais moins interactif, je te le concède. Hein. Mais par contre, le Mando reste pour moi une des refs absolues de beautitude et de code supplémentaire et d'interaction et de... Ça fait le job, quoi.
Tu vois, c'est un peu là-dessus, je rebondissais aussi, c'est encore une fois le prix, il est ce qu'il est. Mais sur le Mando, tu disais, tu payes cher, mais tu payes cher un truc qui vraiment que ce soit en termes de conception et en termes d'apport sur le gameplay, bah quelque part, t'en avais pour ton argent. Je dis pas que c'est pas le cas aujourd'hui. Il est très beau. Moi, j'adore le topper du Foo Fighters. Je le trouve vraiment, vraiment exceptionnel.
Ouais,
j'adore ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que pour le prix, tu te retrouves avec un truc interactif à la Black Knight, un poil moins travaillé. Bon, après, ça se vaut hein, sur les deux. Mmh. Mais finalement, Black Knight, il est sorti, il était à 800 balles. Quoi. Là, t'es à 2000 balles, un truc qui est joli, mais qui t'apporte pas de choses en plus dans le gameplay et qui a pas de réel, techniquement. Où tu sens qu'il y a une vraie R&D, un vrai travail, comme tu pouvais l'avoir sur le Mando, où tu avais cet effet de pseudo-hologramme qui était quand même en termes de réalisation.
Du fantôme de Pepper.
C'est une... voilà, c'est ça.
Question technique. Et je vous renvoie la vidéo que j'avais faite.
Pour le professeur Pinball.
Professeur Pinball, tout à fait.
Voilà oui, pour le topper, les amis, si ça vous va.
Oui, bien sûr, ça me va. Ouais.
Après, on passe au side blade lumineuse. Moi, je me gourre à chaque fois sur les noms, les hazard blades, les side blades. Side blades, donc, c'est sur ce qui est sur les côtés de la caisse, ouais. À l'extérieur, et qui, là, rajoute des side blades en métal avec des petites LED, parce que les petites LED, c'est toujours sympa. Et je crois que c'est la première fois... Vous me direz si je me trompe dans le...
C'est des petites LED.
Voilà.
T'es sûr?
Bah, enfin, oui, là où la découpe du Foo Fighters, si, c'est des petites LED.
Bon, t'es sûr que c'est pas plutôt lenticulaire comme truc?
Bah, alors, si c'est le cas.
Lenticulaire, c'est en fonction de la lumière que ça.
Non,
ça
non, je crois pas. Non, je crois
pour
pas.
Moi, c'est des LED. Hein.
Ouais. Je vous laisse vérifier. Enfin,
je vais regarder justement.
Mais si c'est le cas, je t'en veux parce que t'aurais pu me le dire avant que je sorte la preview. Voilà.
Non, c'est lenticulaire, c'est pas des LED, c'est lenticulaire.
C'est pas vrai, des LED.
Moi aussi, j'étais convaincu que c'était des LED aussi.
Non, c'est juste un effet d'acré, voilà. Mais non, il n'y a pas de, il y a pas de LED, hein, parce qu'il faudrait une découpe en fait, hein, pour que les LED puissent s'incorporer quand même dans la caisse, et il n'y en a pas de base. Donc autant je veux bien à l'intérieur, mais non, c'est juste en fait, c'est un effet irisé. Voilà, je cherchais le mot. C'est juste irisé.
Il est bien mis en valeur leur produit sur leur vidéo du coup.
Ouais, bah, il est bien, ouais. C'est bien foutu. Mmh. Ah, attendez, hop là que je coupe le son, mais oui, c'est ça.
Moi je suis très déçu.
Du coup, t'en veux pas. Merde.
Bah non, mais je change mon article avec un effet irisé tout nul.
Tout nul. Tout non, nul et tout mouillé. Alors, non, voilà. C'est vraiment... Ouais, c'est l'antique. Enfin,
non, mais écoutez, voilà. C'est ma faute, alors my bad. Après, il y a un truc qu'on retrouve pas souvent, vous m'arrêterez là aussi si je dis des conneries, chez Stern, c'est l'Expression Light Kit, qui rajoute, pour le coup, une bande de LED à l'intérieur pour la version premium.
Qu'ils ont mis à l'intérieur des speakers, je me permets juste de te couper parce que je suis un coupeur, je suis DJ Cut Killer. Dans le Jaws, ils l'ont mis au niveau des speakers. C'est vraiment trop mortel. Voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà.
Ouais. Et donc voilà, donc il y a des LED, ça fait un peu surenchère façon JJP sur le niveau de LED, mais pour une logique de flipper musical avec un show ou groupe musical concert, je balance les projos tout ça, je trouve que ça va bien avec le thème, donc c'est plutôt pas mal. Ce n'est compatible qu'avec la version premium, parce que la version LE bénéficie déjà et la version pro n'est pas compatible techniquement. Me demandez pas ce qui manque, mais il manque un truc.
Ce qui manque, en fait, c'est la défonce de caisse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la caisse soit, c'est le terme de menuiserie, il faut qu'elle soit défoncée. C'est-à-dire qu'il y a un emplacement, en fait, une rigole, si vous préférez, qui permette justement ce petit kit de LED qui prend de l'épaisseur, en fait. Et comme la caisse n'est pas défoncée sur les côtés, en fait vous ne pouvez pas poser ces kits-là. C'est exactement la même chose sur le Rush. Voilà.
Yes. Et pour finir, il y a un lance-bille en forme de petit obus.
L'objet des discords entre Sylvain et moi.
Non, mais
je trouve horrible.
Moi, je trouve, du coup, je suis plutôt du côté de Sylvain. En fait, il n'y a pas
vrai,
beaucoup de shooter
notes
que j'aime bien, moi. Et, voilà.
Le Jurassic Park.
C'est quoi déjà?
C'est l'œuf. Oui, mais quand
le
c'est
moustique,
rond.
Le moustique dans l'ambre.
Ah oui, mais celui-là, il est bien. Ouais.
Le Stranger Things, se rapproche.
Le dé, il est quand même beau, le Stranger Things.
Oui, mais encore une fois, tu te rapproches d'un truc qu'en main, tu prends sans problème. C'est un objet qui se tient en main. ton ambre avec le moustique dedans, c'est ni plus ni moins que ce que tu as dans le film. Donc, tu peux la tenir en main. Mmh. Le dé, c'est pareil. La petite boule du... connard. La petite boule du... putain, je vais... cette phrase, elle va être dégueulasse. La petite boule de Baby Yoda.
Tout à fait. Le manche de vitesse, le boîtier de vitesse.
Tu vois ce que je veux dire là. Quand ça a cette forme-là, je trouve que ça va. Dès que tu commences à passer sur des formes un peu exotiques, je trouve que ça n'a rien à foutre dans les mains. En fait, c'est pas agréable à utiliser.
Non, mais personnellement, moi, j'ai un Deadpool, mais peu importe. Honnêtement, je n'utilise jamais le lance-bille. Hein.
Le lance-bille du Deadpool, il ressemble à quoi?
Très moche, c'est le truc en fait avec juste un logo dessus moche.
Ah oui.
Il y a Wormhole qui en a un custom fait par DMA qui est mortel, qui est juste.
Ah oui, j'ai la tête de Deadpool.
Il est magnifique.
Ouais.
Non, Nico n'aime pas, mais moi je le trouve très beau. Voilà.
Donc voilà, donc là c'est une petite un petit obus là et il est lumineux. Alors dès que c'est lumineux, il aime bien l'az. Donc voilà, c'est lumineux. Et par contre, les Art Blade, après, c'est du classique de chez Classic qui sont disponibles pour la version pro, puisqu'elle n'a pas le droit à l'expression light kit. Et c'est des trucs qui expliquent un peu les règles de manière simplifiée, un peu comme sur le Deadpool, où d'ailleurs j'ai mis les Art Blade. Avec ton aide, Lazarus, parce que je ne sais pas faire.
Le shaker, enfin.
Et le shaker, mais ça, je l'ai fait tout seul.
Et alors, t'es conquis ou pas par le shaker?
Je trouve ça bien d'avoir un shaker. Moi, j'aime bien le shaker. Après, est-ce que j'ai pas beaucoup suffisamment de, j'ai pas de recul pour savoir si le shaker est mieux exploité sur cette machine-là que sur d'autres. Ça, c'est
il est pas
ça,
mal.
J'ai pas d'avis.
Sur le Deadpool, il est pas mal. Il y a des flippers où il est un peu sous-exploité, mais sur le Deadpool, ça va, il est pas mal. Bon, et ben on a fait le tour sur les accessoires, non?
Ouais.
Que vous en pensez? Allez, dernier point de la soirée. Pinball Brothers. Dernier sujet de la soirée.
Pinball Brothers.
On va pas partir un peu dans une rumeur, mais c'est une rumeur propagée par le fabricant lui-même.
Oui, tout à fait.
Peux-tu nous donner le contexte pendant
que tout à fait. Sur la page Facebook de Pinball Brothers, ceux-ci ont diffusé une image disant rendez-vous en avril pour une nouvelle annonce. Bon, ça veut dire que c'est une annonce de flipper, sans doute. Et sur cette image qui faisait partie du teaser, il y avait le schéma d'un hélicoptère et qui se trouve être un modèle très particulier d'hélicoptère. Et récemment, il y a quelques jours, ils ont diffusé une petite vidéo où ils montrent que cet hélicoptère est utilisé comme un toy pour faire du log de multiball. Donc on sait que c'est le futur toy principal de leur futur flipper. Et de là, parce que c'est un hélicoptère et que c'est un modèle très particulier d'hélicoptère, je sais pas qu'on appelle, moi j'appelle un peu ça un peu les libellules là, ils sont tout vitrés, ils sont tout ronds, ils sont mignons. Je sais plus que j'ai mis le nom exact de l'hélicoptère dans la news. Et ben ça ferait penser à un hélicoptère que l'on retrouve sur la pochette et sur toute la communication d'un album de ABBA qui s'appelle Arrival. Donc, de là, on découle que tout le monde, maintenant, est certain que Pinball Brothers va sortir un flipper ABBA. Il semblerait que ça conforte une rumeur qui préexistait, qui disait que Pinball Brothers allait sortir un flipper sur un groupe musical européen international de renom. Et ABBA remplit bien le cahier des charges, quoi. Donc, on ne devrait pas être trop surpris. Il y a le Bell 47, effectivement, de Jerry Flipper. Flipper VR, pardon. C'est le Bell 47. Ça, c'est la marque, le modèle de l'hélicoptère. Et donc, ça devrait être cette licence-là pour le prochain Pinball Brothers. Ce que j'en pense personnellement, plusieurs choses. Et là-dessus, on est assez d'accord avec Sylvain. Moi, tout ce qui casse le côté mal alpha testostéroné du flipper, j'aime bien. Donc, du Elton John, j'aime bien, du Queen, j'aime bien, et du ABBA, j'aime bien sur le principe.
Ça, on est d'accord. Elton John, d'ailleurs, alors malheureusement, Stan devait l'apporter, et finalement, je vous l'annonce, malheureusement, il ne sera pas là ce week-end. C'est un flipper sur lequel... Vous savez, j'aime pas les flippers musicaux, ça me casse... voilà. C'est parce que c'est le côté chanson répétitive qui m'agace, mais c'est juste ça. Par contre, Elton John a l'air quand même d'être une sacrée tuerie, quoi. Enfin, il est beau. Comme je disais avec, pareil, quelqu'un qui m'a contacté cet après-midi, les musiques, c'est quand même... Enfin, Elton John est déjà un mythe. Sa discographie est déjà aussi elle-même mythique. Steve Ricci, même si c'est pas mon designer préféré en termes de jeu, parce que c'est pas le style de jeu que j'aime bien, c'est quand même une valeur sûre. Donc ça permet quand même de se dire que le Elton John va être quand même une super machine, quoi. Donc je suis d'accord avec Nico là-dessus, ça fait du bien d'avoir des machines de ce genre-là.
Tout à fait. Et voilà. Et ABBA est un groupe. Enfin, tout le monde connaît ABBA, quoi. Donc là, moi, je suis assez épaté encore une fois par Pinball Brothers qui arrive à choper des licences pareilles. Alors, on sait que les licences de Alien et de Queen étaient héritées de l'expérience avortée de Highway Pinball. Là, ce n'est pas hérité de Highway Pinball, donc. C'est leur propre réseau. Alors, ils ont des investisseurs communs, hein, entre Highway Pinball et Pinball Brothers. Mais quand même, quoi. Voilà. Moi qui me posais des questions de comment ils allaient faire une fois qu'ils allaient finir d'éponger l'héritage, on va dire, de Highway Pinball. Bah, s'ils sortent un flipper à bas, ils sont quand même dans la course, autrement plus que nos pauvres amis d'American Pinball, en tout cas. Et moi, je leur souhaite que ça marche bien.
La seule question ou remarque qu'on pourrait avoir du coup là-dessus, c'est ils ont terminé avec le Queen et enchaînent avec un flipper musical.
Oui, ça c'est surprenant. Exact.
Ça, autant moi, comme vous tous, je suis si c'est ABBA, si ça s'avère encore une fois, parce que c'est de la rumeur qui est quand même bien entamée. Moi, je serais ravi. Honnêtement, je pense que le truc est plutôt bien choisi. Ça enlève un peu ce côté rock'n'roll qu'on a quand même trop souvent, et c'est bien d'avoir un peu de fraîcheur là-dedans. ABBA, il y a moyen de faire des trucs de fou. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est ultra culte.
Tout le monde danse sur du ABBA.
Mais ouais, tu peux mettre des lumières dans tous les sens. Si les toys, enfin encore une fois, et si vous n'avez pas vu la vidéo, enfin c'est une vidéo qui montre en fait une sorte de conception 3D de ce fameux mécanisme de toy qui lock les balls avec l'hélicoptère. C'est dingue. Enfin ce truc-là, j'ai juste hâte de le voir sur le plateau. Mais la mécanique, elle est folle. C'est-à-dire que tu fais vraiment rentrer les billes. Comme ton truc Playmobil, là tu mets tes petits personnages sur les sièges, bah là c'est cet équivalent là avec les billes clairement dans l'hélicoptère qui vient ensuite les balancer pour lancer le multiball. Rien que de voir ça, déjà ça donne envie. Bon, là je parlais tout à l'heure d'American Pinball et sa communication un peu hasardeuse sur le lancement d'un flip. Là, à contrario, Pinball Brothers font monter la hype intelligemment, ils distillent 2-3 trucs comme ça donne envie. Et encore une fois, le thème ABBA peut donner quelque chose de vraiment cool. Si le design suit, ça peut être sympa. Mais encore un nouveau flip musical?
Oui, je suis d'accord avec toi, mais j'aime beaucoup, comme tu le disais, j'aime beaucoup Pinball Brothers. J'aime beaucoup leur... on critique un peu. Ça manque encore de 2.0 au niveau de la communication, au sens je mets un peu les formes et je bâtis quelque chose de réellement solide derrière. Mais cependant, c'est vraiment une boîte qui écoute. Pour les avoir eu quand on avait eu le Alien, on avait eu quelques soucis de logiciel, on les avait contactés dans la journée, ils nous avaient répondu. C'est une boîte qui est très réactive, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une boîte qui est très réactive, qui écoute. Et voilà, et ça me fait penser d'ailleurs un peu là-dessus aussi à Exa, une fois de plus, qui est très, très à l'écoute et qui est preneur de ça. Donc c'est vraiment une boîte qu'il faut soutenir, je pense. C'est une boîte européenne. Leurs machines sont vraiment bien. Vous savez, moi, l'Alien, j'aimerais tellement l'avoir, cette machine. Je ne peux pas tout avoir, donc je prioritise. Mais c'est vraiment quelque chose de... voilà, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact et à aller essayer des leurs machines, hein, que ce soit le Queen, le Alien, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site et puis sur les réseaux, hein, de... Pinball Brothers. Écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour. On s'arrête là. Merci à tous pour vos lurks, vos follows, vos abonnements, vos likes, tout simplement d'être là. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, d'ici là, jouez au flipper, faites des high scores ou pas. Ciao, ciao.
Ciao.